RMC Intégral Sport, Virginie Fulpin.
Il est 20h04, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon ont arrêté leur chrono. Le contre-la-montre est terminé sur le Tour de France. Maintenant, ils sont tous les deux là pour vous. Au 32-16, questions, remarques, coups de gueule, on vous attend. Ça se passe aussi sur Twitter, hein, d'ailleurs, avec le hashtag RMC Tour. Lucho, Bourgui, rebonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, Virginie.
Vous avez remarqué, c'est dingue, hein, on peut finir deuxième et gagner quand même. Moi, je sais pas, c'est ce que j'ai retenu du contre-la-montre d'aujourd'hui avec Chris Froome qui a terminé donc deuxième derrière Tony Martin, mais qui a bien distancé ses principaux rivaux pour la victoire finale.
Et oui, il y a deux courses dans la course. Il y a la course pour la victoire finale, le maillot jaune, c'est-à-dire, et puis la course de la journée.
Donc on peut le considérer comme vainqueur.
Oui, il y a de grandes
chances. Vainqueur pour aujourd'hui, hein, je ne dis pas forcément au bout, mais quand même. Ça commence à sentir bon pour lui.
Oui, je pense que ce soir, il va avoir moins de problèmes à calculer ceux qui peuvent le battre.
Oui. Mais en plus, il faut dire une chose, c'est que bon, t'as encore un deuxième contre la montre. Et à la limite, l'avance qu'il a sur Valverde, 3 minutes 30, il a pratiquement 6 minutes quoi, déjà. Alors bon.
Si on commence à faire des calculs comme ça, c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Messieurs, on va tout de suite aller au 32-16, hein, le standard RMC, où Marc-Antoine nous attend. Bonsoir, Marc-Antoine.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et Marc-Antoine Bonsoir. Se pose des questions sur Froome et les Alpes.
Voilà, tout à fait. Oui, parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup donné, puis vu que son équipe n'était pas très performante ces jours-ci, je voulais savoir ce qu'il avait donné dans les Alpes, vu qu'elle n'était pas trop, là. Donc, je me demandais si Froome allait être donné dans les Alpes, mais bon, est-ce que son équipe va être là pour justement l'aider à poursuivre son maillot jaune?
Je pense qu'aujourd'hui, ça sera encore plus facile pour lui, puisque même si son équipe a montré quelques lacunes pour rouler tous ensemble, on va dire, là aujourd'hui, la gestion est plus facile, puisqu'il a déjà 3 minutes d'avance sur le premier adversaire. Donc, en sachant qu'il va en prendre peut-être encore autant dans le dernier chrono.
Moi,
je me fais absolument pas de soucis, parce que d'autant plus qu'on a vu dimanche que les équipes couraient pour la deuxième place plutôt que pour mettre en difficulté Froome. Ouais, donc là-dessus, il est tranquille.
Il n'y a que l'Alpe d'Huez où il peut éventuellement être mis en danger, mais sinon, le Ventoux, ses coéquipiers vont l'emmener jusqu'au pied du Ventoux, donc c'est une course de côte. Donc après, à la limite, il n'aura plus besoin de personne. Et je vois mal comment Contador, Quintana, de toute façon, ils sont loin au classement général. Et ils le seront encore plus à l'issue du deuxième chrono. Donc il est confortable, il est dans un fauteuil, et avant de le déloger de ce fauteuil, ça sera quand même difficile. Donc maintenant, on va se concentrer, comme le disait Cyril et puis même Thierry, on va se concentrer sur la deuxième place du tour, parce que c'est là où ça va jouer maintenant sur la suite du tour. Le seul bouleversement qu'il peut y avoir par rapport à Froome, il peut être malade ou il peut tomber. Voilà.
Et il peut avoir, on peut toujours l'espérer, un coup de moins bien, mais ça, ouais, il n'a pas montré la moindre défaillance l'an dernier, alors qu'il aurait pu déjà gagner le tour.
Alors, un coup de moins bien, il faudrait qu'il ait un gros coup de moins bien dans les Alpes,
oui,
quand même, qu'il perde un quart d'heure,
pas.
C'est possible. Ça, c'est quelque chose qui peut encore arriver.
Ah, pas un quart d'heure, mais si vraiment le coureur est malade ou pas très bien, le temps est vite perdu. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri d'un petit problème quelconque.
Deux fois l'Alpe d'Huez, et puis bon, il y a encore la montée du Seine-Mont, tout ça, c'est vrai que c'est assez quand même. On est un peu costaud. Puis bon, c'est vrai que si son équipe n'est pas là, puis derrière, ça attaque dans les autres équipes, est-ce que ça ne pourrait pas jouer des jeux à fond?
Oui, mais qui? Marc-Antoine?
Marc-Antoine, il a envie d'y croire. Il a envie de croire que le tour n'est pas joué.
Qui est capable de l'attaquer? Non, mais qui est capable de l'attaquer aujourd'hui? On voit mal ses adversaires directs, tous ceux qu'on a cités par le passé, hein, les Contador, les Valverde, les Quintana, reprendre du temps à Froome dans les moindres montées, parce que bon, le Ventoux, s'il perd une minute au plus mal, hein, une minute dans la montée du Ventoux, ça sera le pire. Et puis l'Alpe d'Huez, faut vraiment qu'il y ait une catastrophe pour que les autres reprennent énormément du temps. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut pour le mettre en difficulté. Et après, l'adversaire n'est peut-être pas à la hauteur de le mettre en difficulté. Ou c'est Froome qui est trop fort pour le mettre en difficulté, surtout.
Merci Marc-Antoine d'avoir appelé le 32-16 et à très bientôt sur RMC. Il y a d'autres auditeurs qui pensent que ce tour n'est pas joué, qu'il n'y a pas que la deuxième place désormais jouée par les rivaux de Christopher Froome. Patrice nous appelle au 32-16. Bonsoir Patrice.
Bonsoir Monsieur Blanc, bonsoir Monsieur Bourguignon.
Bonsoir Patrice. Oh, vous pouvez nous appeler par nos prénoms, ce sera plus simple.
Oui.
Ouais. D'accord.
Alors la Sky n'a pas gagné encore.
D'accord. Bon, alors vous venez de me démonter le moral en disant que le tour était joué. Alors, franchement, là, je suis
c'est
un petit peu démonté.
Faute, hein.
Bon, je reste persuadé parce que ça fait 2-3 jours que je vous ai au téléphone. J'ai été un peu déçu hier que bon, il y a pas de bordure, mais a priori c'est compliqué. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai suivi les performances de deux personnes que je regardais un peu, qui sont Bokeh Moniba et puis Etendam, qui ont bon, je pense, ne résistait pas trop mal par rapport à ce qu'ils aient. Et j'avais une question à vous poser, parce que je pense, moi, que c'est pas joué. Est-ce que, vraiment, après, on peut pas avoir un jeu d'équipe? C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui, toujours chez Belkin, que ce soit Tendam ou Mollema, il y en a un des deux qui peut attaquer, etc. Ça peut déstabiliser l'équipe, parce que pour moi, Sky, cette année, est franchement pas aussi performant que l'année dernière, en termes d'équipe. Et de l'autre côté aussi, parce qu'on a vu Kroziger qui restait parce que Contador voulait pas qu'il attaque. On a Valverde de l'autre côté avec Quintana. À un moment, si tous s'y mettent, il va avoir une belle sérénité. Est-ce que Froome va pas finir par aussi craquer un petit peu, quoi? Il peut prendre un éclat, quoi, à un moment. Ça reste un humain.
Il y a toujours espoir, entre guillemets, parce qu'on lui veut pas de mal, hein, Froome, hein. Mais il y a toujours espoir qui... Ouais, un petit éclat dans les Alpes, mais bon, franchement.
Mais je pense déjà qu'il. Je vois déjà par rapport au Mont Ventoux, ouais. Où bon, c'est quand même costaud, bon, même ouais. S'il aime la chaleur, etc. Il y a Thierry Bourguignon qui parlait d'une minute. Alors, peut-être que j'espère vraiment, quoi. Mais dans mon idée, je pense que le Ventoux va relancer la troisième semaine. Et je pense que si vraiment ils veulent gagner le tour, après, peut-être qu'ils veulent pas et qu'ils veulent jouer la deuxième place, mais je pense qu'ils risquent de prendre un bon éclat dans le Ventoux, quand même.
Oui, mais Patrice, on l'espère. On espère que tous ses adversaires aient l'intelligence d'attaquer chacun leur tour et de ne pas faire le jeu de Froome, ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Parce que dimanche, c'était l'idéal pour le mettre en difficulté. Et à côté de ça, ben Valverde et son équipe Movistar a pris la barre pour écarter la deuxième place. Donc c'est un peu dommage.
Ça peut exister une union sacrée contre les Sky et contre Chris Froome en particulier.
Je ne sais pas entre qui, hein, Virginie, très honnêtement, parce que les Espagnols, déjà, Valverde ne va pas vouloir Contador, il lui grappille la deuxième place, inversement.
Ouais, mais rappelle-toi du Tour d'Espagne. Comment ils ont fait la fête.
Oui, mais tout à fait. Mais bon, Valverde ne va pas vouloir perdre sa deuxième place, Thierry, par rapport à Contador.
Oui, Froome, à la limite, était peut-être fatigué du Tour de France qu'il avait fait, mais ils lui ont fait vraiment la fête. Bon, peut-être que les Espagnols étaient plus forts que ce qu'ils sont là au départ du Tour. Ouais. Voilà, c'est simplement ça. Moi, j'aimerais y croire aussi. Hein. Mais j'espère que dans les Alpes, on ne verra pas la connerie qu'on a vue dimanche. Voilà, c'est tout. Après, il faut que les directeurs sportifs puissent jouer au poker et soient prêts, et ça, c'est pas donné, soient prêts à perdre leur place, du moins prendre des risques, au risque de prendre un bouchon et de perdre leur place. Voilà.
Merci beaucoup Patrice d'avoir appelé le 32-16. Merci, et à très bientôt Patrice, sur l'antenne d'RMC. Il y a Olivier qui, sur le hashtag RMC Tour, sur Twitter, nous dit qu'il est jeune, mais est-ce que dans l'histoire, vous avez déjà vu quelqu'un se révéler aussi fort, à la fois en contre-la-montre et en montagne, à 27-28 ans?
Mais il est jeune... Ben ouais, 27-28 ans, c'est jeune, mais dans le cyclisme, non. Je crois qu'il y a des coureurs qui ont gagné des chronos qui étaient beaucoup plus jeunes que ça. Froome, il a de l'expérience de par le fait qu'il ait déjà fait des grands tours, hein, le Tour d'Espagne, le Tour de France l'année dernière. Il a fait plusieurs fois dans les trois premiers. Donc il a l'expérience, donc c'est pas étonnant de le voir. Puis en plus, c'est un spécialiste du chrono.
Il y en a qui ont gagné le tour bien avant lui.
Oui, mais
plutôt dans l'âge, je veux dire.
Plutôt dans l'âge, oui. Bien plus jeune. Donc, non, c'est pas une surprise, c'est pas étonnant. En plus, un coureur cycliste arrive à la maturité d'un coureur cycliste en général, c'est vers les 25, à partir de 25-26 ans.
Donc là, il est en plein dedans.
Il est complètement dans l'allure.
Il est en plein dedans. Et en plus, l'an dernier, ça l'a bien lancé.
Ouais, et alors, tout à fait. Autre question, mais ça c'est moi qui vous la pose, puisque tout le monde relève le fait que la Sky serait peut-être moins forte que l'année dernière, et pourtant Chris Froome est en train d'assommer le Tour de France. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous prouver que le cyclisme n'est pas forcément un sport d'équipe, lui tout seul?
Et de toute façon, le cyclisme, c'est un sport individuel, un sport d'équipe à la fois.
Dans un chrono, pratiqué par équipe.
Voilà, dans un chrono, t'es tout seul. Les étapes de montagne, quand tu es mal, tu peux avoir des équipiers. Malheureusement, ben tu es tout seul contre tous, et surtout contre toi-même. Et un sport d'équipe, oui, parce qu'on a besoin d'une équipe pour gagner un grand tour. Pourquoi ? Ben parce que ben il faut placer son leader sur les étapes dites de plaine pour éviter les bordures, les cassures. Un sport d'équipe aussi dans le sens où si Froome a un problème mécanique, une crevaison, ben il y a toujours un équipier derrière à ses côtés ou deux pour lui donner son vélo, soit son vélo, soit sa roue. Donc oui, c'est important d'avoir une équipe aussi autour de soi.
Non, mais il faut pas oublier que Froome a gagné l'étape à Axe des Trois Termes grâce à son équipe. Parce que s'il n'a pas l'équipe pour rouler sur les échappées, dont Quintana, mais jamais il revient tout seul, ou alors il revient tout seul en laissant un peu de force, et aurait-il gagné en roulant sur Quintana avant ? Je suis pas sûr.
Oui, c'est pas parce qu'il s'est retrouvé isolé le jour d'après qu'il faut en tirer des conclusions hâtives sur la Sky.
C'est vrai qu'ils nous ont habitués à avoir une équipe à jamais craquer. Ils étaient tous devant, tous jusqu'à la dernière montée. Bon, ben là, c'est vrai que la trace des Pyrénées nous a laissé à penser que la Sky était un peu moins forte et pouvait lâcher son leader.
Alors, il y a Christophe au 32-16 qui a une théorie sur la Sky. Bonsoir, Christophe.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors, la Sky le ferait exprès.
Bonjour,
salut.
Bonsoir.
Ben, pour moi, je sais que tout à l'heure, apparemment, il y a un auditeur qui s'appelle aussi Christophe, d'ailleurs, qui vous a remis ça sur la table, le dopage, tout ça. Bon, apparemment, vous n'étiez pas trop d'accord. Moi, pour moi, quand je vois la Sky, je vois l'US Postal d'avant. On sait ce que c'était, l'US Postal avec Armstrong, on sait ce qu'il en a été. Donc, moi, je vois Froome, toujours Axe 3 Domaine. Dans la montée, il a mis tout le monde dans le vent. Les anciens qui étaient dopés, Contador, qui apparemment ne le sont plus maintenant. Mais quand on voit comment il monte, bon, il y a un truc dopage ou autre, je sais pas, mais le problème, c'est qu'encore, on va le savoir dans quelques années, 3, 4 ans, 5 ans, en 2013, Froome, en fait, il était pas clair, il avait ci, il avait ça. Et voilà, encore une fois, on sera pas le vainqueur du 5e Tour de France.
Non, mais c'est vrai que le samedi, on en a discuté auparavant, tous à l'antenne.
On en a beaucoup parlé, oui.
Il y a certaines similitudes, mais on ne peut pas lancer quand même le discrédit sur les personnes sans preuve, sans rien. Après, on peut toujours s'interroger. Et le raccourci facile de dire oui, mais ça ressemble étrangement à ce qu'on a connu par
ça
le passé.
Ça ressemble pas trop cette année, Thierry. Hein,
comment ?
Je dis ça ressemble pas trop au train US Postal, la Sky.
Contrairement
à l'US Postal, ils sautent. Hein.
Non, je l'ai évoqué samedi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Christophe. La montée des Trois Termes. Axe des Trois Termes, ça m'a fait penser à Armstrong, simplement. Mais bon, non, on peut pas. Voilà.
Non, mais surtout quand on sait que le meilleur temps c'est Lewis, on sait maintenant qu'il est chargé. Le deuxième temps c'est Armstrong, on sait qu'il a été chargé. Donc Froome il fait le troisième temps.
Et alors ?
On se pose des questions. Richie Porte il amène Froome et puis il lève un peu le pied et puis il voit que les autres sont pas bien, hop, il remet le couche.
Oui,
et
mais après, il a pris un coup de but le lendemain aussi.
Ouais, je pense qu'après ça c'est la tactique de la Sky, parce que je pense qu'ils ont pas envie de faire comme US Postal, mettre 5 gars devant.
Attention Christophe, c'est pas du cinéma, c'est pas que du cinéma le vélo.
C'est pareil.
Quand j'entends, oui, non, mais en parler, s'interroger, ok, mais automatiquement la personne qui est au-dessus des autres, tac, de suite, il y a un discrédit. C'est exactement pareil que si le présumé coupable. Voilà.
Oui, c'est sûr. Mais oui, les présumés.
C'est en tout cas une suspicion. On se pose des questions.
Regardez, dans l'athlétisme, celui qui gagne, de suite, vous pensez à la même chose ?
Ben
dans
oui.
L'athlétisme oui, ou dans un autre sport.
Quand les gars, il y en a un qui sort du lot, qui est énorme.
Et l'athlétisme, il n'y en a pas un comme ça qui sort du lot ? Il n'y en a pas un qui sort du lot dans l'athlétisme comme ça ? Qui est au-dessus de tout le monde ? Et ben voilà. Et on s'interroge aussi de la même façon.
Ah ben je pense, c'est peut-être que dans l'athlétisme, il y a eu des grosses affaires de dopage aussi.
Mais c'est grave quand même. Moi je trouve ça grave. Attendez, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas s'interroger. Mais le seul problème, c'est qu'il ne faut pas lancer le discrédit sans preuve. Voilà, c'est tout. Je me suis toujours interrogé sur
Armstrong. Le problème, c'est qu'on a un temps de retard sur ces équipes. On a un temps de retard et les contrôles antidopage ont un temps de retard. Donc eux, ils ont un temps d'avance. Donc là, on s'est dit qu'ils ont fait un truc. On ne sait pas quoi. Et puis dans 3 ou 4 ans, il va y avoir. Comme là, on s'aperçoit que Javabert en 98, ça fait 15 ans, quoi. Et on a 15 ans de retard sur le produit.
Non, on n'a plus 15 ans de retard, puisque maintenant, vous le savez, les. Non,
peut-être de 15 ans, c'est pas 5. Ils font des progrès.
Non, mais on peut toujours. Ça, c'est facile de dire. Ah, bah oui, mais les tricheurs ont toujours de l'avance sur. C'est pareil. On a mis des radars sur la route, mais il y a toujours des gens qui disent ah ouais, mais il y a quand même des mecs qui vont super vite entre les radars. Ouais, bon, d'accord. Et ben là, le sport le plus flashé sur le temps sur le dopage, c'est quand même le vélo. Alors on cherche, on trouve, c'est sûr. Et après, on peut toujours s'interroger, mais aujourd'hui, il y a le passeport biologique. C'est pas que le contrôle qui plombe les mecs. C'est le suivi longitudinal qui fait qu'il y a des paramètres qui font apparaître qu'il y a des choses qui sont pas claires et on arrête les coureurs comme ça. Voilà. Et moi, je ne peux pas penser qu'il n'y ait que des tricheurs. Aujourd'hui, je pense que voilà, il y a des mecs forts. Voilà, je peux m'interroger aussi, comme vous, hein, sur la montée qu'il a faite.
Notre travail, c'est de nous poser ces questions, mais voilà, pas de jeter une suspicion permanente, bien sûr, mais de se poser des questions et de chercher, bien sûr, des réponses, comme on l'a fait avec l'ancien préparateur de Festina. Enfin, on donne la parole à tout le monde dans cette histoire.
Ça, c'est pareil. Hein, on donne la parole à des gens qui ont cautionné le dopage.
On va revenir à la course, si vous le permettez, messieurs, pour une dernière question au 32-16. Frédéric nous appelle. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à toute l'équipe.
Salut.
Bonsoir
Fred.
Bonsoir. Oui, ma petite question était, comme vous voyez l'année dernière, on avait Froome avec Wiggins comme coéquipier. Cette année, je vois chez les Saxos, on a Cardinger avec Contador, et on a Quintana avec Valverde. Pourquoi ces deux-là, les deux couteaux, deuxième couteau, pourquoi on les laisse pas y aller dans les montagnes? Même qu'ils soient coéquipiers, quand les leaders n'en peuvent plus, pourquoi on les laisse pas partir, ces coureurs-là? Si je vois Cardinger dimanche, il avait plein sous les pieds, il voulait y aller, il regardait Contador, il se décide, non, Quintana, il attaque, on a Valverde qui remonte, qui vient le voir, et qui fait signe d'arrêter, donc c'est un peu dommage quoi. Ça cache un peu le tour quoi.
Donc Quintana l'a fait le samedi, le dimanche c'était pétard mouillé, même lui il a dit il était fatigué. Après Kruziger, je suis d'accord, peut-être que axe des trois termes, il aurait pu être mieux placé, il aurait pu faire deuxième voire troisième, très près du deuxième. Mais bon, je pense que l'avenir va vous donner raison. Je pense que la semaine prochaine dans les Alpes, ça sera totalement différent et ils ont l'obligation de lâcher les fauves, c'est-à-dire les seconds couteaux comme les premiers.
Ouais, parce que là, si je regarde la semaine prochaine, si je regarde le classement, ce qu'ils veulent, si je regarde la Saxo comme je regarde Movistar, je me dis, ce qu'ils veulent maintenant, c'est finir deuxième et troisième. Et Contador va vouloir finir deuxième et Valverde va vouloir finir troisième. Et Kartinger peut finir aussi troisième sur le podium. Il n'y a aucune honte pour Contador de finir quatrième si l'autre est meilleur, quoi. Je veux dire, s'il n'a plus sous la pédale, autant qu'il a.
Ah, mais vous connaissez pas le côté.
Non, mais leader. Je sais, après, c'est une histoire d'équipe et après, le leader doit toujours être devant.
Mais et l'ego des leaders aussi, hein.
Donc c'est vrai que c'est ça, parce que si je regarde aujourd'hui au contre-la-montre, entre Contador et Kartinger, il n'y a pas grand-chose non plus.
Ouais, mais Kruziger est derrière.
Merci Frédéric, merci d'avoir appelé le 32-16. J'ai juste une petite question pour vous, Lucho, Bourgui, une dernière sur Twitter, sur le hashtag RMC Tour. JP qui nous dit, le problème c'est qu'à cause des points UCI, une équipe va préférer geler une deuxième place plutôt que de tout perdre.
Exactement.
Est-ce que ça vous semble être une bonne analyse?
Mais bien sûr. Et aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on voit ça. On voit les directeurs sportifs préférer faire deuxième et sans forcément attaquer et prendre des risques, parce que si en prenant des risques, ils peuvent passer de deuxième à troisième ou voire quatrième, et là on perd un capital de points
important,
impressionnant, et tout est accroché à ces points UCI.
C'est vrai, tout est calculé par rapport aux points UCI, ça c'est vrai aussi, hein. Malheureusement.
Mais merci beaucoup à tous les deux.
Virginie,
c'est fini déjà?
Ben oui, c'est fini, c'est terminé.
Il est 23.
Mais on va se retrouver. Non, il est 24.
Hein?
Voilà.
Virginie, je peux pas faire un petit clin d'œil à quelqu'un
si,
qui.
Ah, si, bien sûr, bien sûr. Un clin d'œil,
Jean-Michel Borne et toute son équipe qui a combattu une maladie, une leucémie, et qui a eu droit à une greffe, et qui s'attaque à un grand défi, faire le premier Tour de France. Mettre en lumière l'association Fugain et puis l'association Arche qui donne la possibilité de du moins la sensibiliser les gens à la moelle osseuse, à la donation de moelle osseuse, ouais. Et faciliter la création d'un fichier national du donneur. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour ce clin d'œil utile, en plus, Bourgui. Merci à
oui,
tous les deux.
Après tout ce qu'on dit du vélo, voilà, il y a des nobles causes.
Bien sûr. Mais le vélo est aussi une noble cause. L'Intégral Tour, c'est demain à partir de 15h sur RMC. Vous serez là, tous les deux. La 12e étape, sans doute pour les sprinteurs, de 118 km entre Fougères et Tours. Si jamais vous êtes en vacances et que vous cherchez à écouter l'Intégral Tour, c'est très simple. Vous téléchargez l'appli RMC Sport. Je ne sais pas si on en parle sur la route du Tour, mais en tout cas, Leonardo a démissionné du PSG aujourd'hui. Et nous, on va en parler dans quelques instants. Et puis également dans l'after, à partir de 21h. Là, dans quelques minutes, Jean-Michel Moutier, ancien directeur sportif du PSG, sera notre invité. À tout de suite.